Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la quatrième émission en compagnie d'Adrien Crypto Sapiens. Et on est ravi en cette période d'ATH du côté de Bitcoin, voire d'ATH un peu multimarché, puisque du côté du S&P, le gold, on a même eu le Russell, c'est-à-dire les low cap américaines, on a tout qui est en ATH. Et donc désormais, la seule question qu'il y a sur toutes les lèvres des particuliers, c'est quand est-ce qu'il y aura potentiellement une alt season. Donc nous allons tenter de répondre à quelques questions aujourd'hui, notamment via cette analyse on-chain avec Crypto Sapiens, et de voir comment se comportent les participants au marché dans un point de vue justement purement blockchain, avec peut-être des prises de profit, des stablecoins qui sont dépensés oui ou non, et de voir à peu près comment pourrait se goupiller cette fin d'année 2025. Et donc super ravi de te retrouver, grand plaisir en plus, ton absence a caché donc l'arrivée d'un bel et heureux événements, donc félicitations au nom de toute l'équipe CM et de toute la communauté, et donc super ravi de t'avoir aujourd'hui.
Eh bien, salut CM, et puis merci, merci en tout cas. C'est vrai, un petit heureux événement, un nouveau Bitcoiner est arrivé dans ce monde, et donc forcément, voilà, c'est pour ça qu'on a pris ces deux semaines de plus encore pour se refaire cette vidéo, et globalement, il s'en est passé des choses, même si la dernière fois qu'on vous a laissé, c'est vrai qu'on était quand même toujours assez... j'ai envie de te dire optimiste, et ça s'est plutôt bien concrétisé. Nouvelle ATH, les alt Ethereum qui voilà, suivent un petit peu, mais qui en tout cas sont plutôt dans le bon aussi. Ça ne peut faire que plaisir, et comme tu l'as dit, je pense que ça va être très intéressant de se pencher sur ce qui se passe au niveau on-chain. Est-ce que les investisseurs prennent des profits, sont plutôt confiants, est-ce qu'ils réinjectent des liquidités? C'est exactement ce que l'on va voir aujourd'hui. Bon, déjà, petite première anecdote, c'est vrai que depuis quelques jours, on est officiellement dans le cycle haussier le plus long post-halving, en tout cas depuis l'halving d'avril 2024. Nous en sommes, en tout cas, c'était le 5 octobre, donc nous sommes au 535e jour aujourd'hui depuis le halving de l'année dernière. Et écoutez, avec ce nouvel ATH, on est toujours du coup dans un cycle haussier, ça c'est clair. On va pas, je pense que ça sert à rien de jouer sur les mots, on y est vraiment. Et donc globalement, on dépasse la durée du cycle 2017-2021. Alors évidemment, c'est vrai que vous le savez, on est toujours à savoir s'il y aura toujours des cycles de 4 ans ou non. Pour l'instant, en tout cas, on profite de cette dynamique, on profite de cette tendance qui est bien repartie à la hausse, même si en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir... ce que j'aime beaucoup ce genre d'anecdote qui nous montre voilà qu'on vit encore un cycle tout à fait particulier qui à chaque fois ne ressemble en rien au cycle précédent.
C'est vrai que c'est un cycle qui est somme toute particulier, puisque on est toujours dans ce questionnement de se demander si cette fois va être différente. Alors il y a des gens qui d'ores et déjà s'appuient justement sur les jours pour dire que petit à petit, dans tous les cas, on va vers un cycle qui sera différent et qui aura ses spécificités, hein. Et comme on l'a vu depuis janvier 2024 avec l'arrivée des institutionnels et des ETF, il y a beaucoup de cartes qui ont été redistribuées. Et ce matin, j'ai vu passer aussi un post du côté de Twitter. C'était Crypto Goku, je crois qu'il avait repris lui-même de Crypto Mask ou un truc comme ça, qu'il y avait une personne sur un forum qui avait fait des grandes prédictions 2-3 ans en arrière et qui avait dit le top de ce cycle sera le 6 octobre 2025. C'était hier en pleine ATH. Donc,
c'est ça.
On va croiser les doigts pour que ça ne soit pas encore le top ultime, mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire.
C'est clair. C'est vrai que ce serait dommage, parce que ce serait un petit top, entre guillemets, où il n'y a pas vraiment d'euphorie. En tout cas, je ne sais pas comment tu le ressens, toi, sur tes médias ou autres, mais il n'y a pas vraiment de FOMO, il n'y a pas d'euphorie, je trouve, que ce soit autant sur BTC que sur les alts. Il n'y a pas eu des x10 à répétition, même si, encore une fois, on ne va peut-être pas recopier ce qui s'est passé en 2021, mais c'est vrai que, voilà, il manque un peu cet engouement. Si jamais c'était ce jour-là, écoutez, on va essayer de surveiller ça quand même si moi j'ai plusieurs éléments qui me disent qu'on a quand même pas mal d'arrivées de capitaux, mais encore une fois, vous le savez, on n'a pas de boule de cristal, même si parfois on a tous les éléments en main pour penser que ça peut continuer à la hausse, on va quand même rester très prudent et voilà, fonctionner en termes de scénario, vous le savez que je fonctionne aussi comme ça. Alors du coup, pour revenir à ce qui s'est passé ces derniers jours, donc vu que nous n'étions pas ensemble pour voir ce qui se passait, globalement, il y a eu cette petite phase de doute quand même qu'il s'est passé fin septembre. On était retombé sur les 108, 109 000 dollars, et je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est vrai que l'engouement, on va dire que le sentiment sur le marché était beaucoup plus à la peur, au doute, et finalement, on a quand même bah voilà, assez bien rebondi, même rebondi assez fortement, parce qu'on est quand même passé des 109 aux 126 000 dollars pas plus tard qu'hier. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça, on en avait parlé dans les vidéos précédentes, on a quand même eu un signal qui nous montrait qu'on allait repartir. C'est évidemment ce support dont je vous parle très souvent, qui est celui du coût de revient, le coût moyen d'achat des investisseurs qui sont arrivés il y a moins de 6 mois. Et globalement, comme vous le savez, puisque à force de m'écouter, vous en souvenez, quand on tient ici cette bande hop, rouge, je vais couper un peu le bruit, c'est que logiquement, on est dans une tendance haussière. Alors quand on l'a, quand on la challenge un petit peu, c'est là où il y a justement ce doute, cette peur, mais quand on rebondit bien dessus, on repart à la hausse. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est exactement, ça s'est déroulé exactement comme ce qu'il se passe depuis même les cycles précédents. C'est-à-dire qu'on le challenge un petit peu, vous voyez l'action du prix, même ici en avril-mai, et une fois qu'on rebondit dessus pour de bon, on repart à la hausse. Ici également fin juin, ici également fin août, début septembre, et ici, c'était tout simplement parfait. Regardez, je vais zoomer dessus, on a vraiment challengé ce support, on était passé à la baisse, pas mal de gens voilà, étaient dans la peur, ont vendu à perte, il y a eu des prises de perte de la part d'investisseurs moins confiant pour la suite du marché. Et regardez ce qui s'est passé. On a repris ce support le 29 septembre. On est reparti légèrement à la hausse. Donc, tout le monde parlait justement de fake pump, etc. On est très brièvement redescendu le jour d'après. Mais en fait, ici, ça nous a montré que le marché voulait aller plus haut. Pourquoi ? Parce qu'on a rebondi pile poil sur ce fameux support ici en rouge. Et une fois qu'on a réentamé cette jambe haussière, bah forcément, hop, on est parti. Et on a explosé les compteurs jusqu'à ce nouvel ATH. Donc, c'était vraiment le signal qui nous montrait qu'ici, on allait justement exploser à la hausse. Alors que, si on prend l'inverse, ce qui s'était passé plutôt il y a de ça quelques mois, au mois de février, où ici, on avait plutôt vu l'inverse, pour vous donner un exemple contraire, c'était voilà, on avait cassé ce support à la baisse, et quand on est revenu le challenger, le tester, voir si on allait le reprendre, eh bien, ça s'est passé justement plutôt dans l'autre sens. On est reparti à la baisse. Donc, cette fois, ça nous a servi de résistance. Et là, on est parti dans les abysses. Donc, vous voyez, en fait, les deux scénarios types. Et pour l'instant, on a eu celui qui nous intéresse le plus, de repartir à la hausse.
Donc, en fait, on peut interpréter aussi cette courbe, finalement, un peu comme un indice de peur et de volatilité des court-termistes, des derniers arrivants qui tantôt dérivent à la hausse par rapport à la moyenne, quelque part. Et quand on passe en dessous, c'est là où les whales, quelque part, s'activent et viennent tapisser un peu les achats beaucoup plus bas que la moyenne des court-termistes. Et ce qui fait que, par la suite, on a des bottoms, etc. Et ce qui sera tout aussi intéressant de voir, c'est à quel point on risque de dévier plus tard lorsqu'on aura un bear market, moins 30, moins 40, moins 50, de voir jusqu'où ça peut effectivement chuter.
C'est ça, exactement. Tu fais bien de le mentionner. C'est vrai que les investisseurs très long terme, voilà, que l'on passe par exemple de 120 à 110 000 dollars, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais un petit peu quand même, parce que c'est pas là-dessus qu'ils vont faire leur course, entre guillemets. Ils vont attendre soit d'avoir vraiment une sorte de bottom comme on a bien eu ici au mois d'avril, mars-avril 2025, soit justement exploser à la hausse et de prendre des profits quand on est dans un autre extrême. Alors que ces investisseurs court terme sont très dépendants de ce qui se passe sur du très court terme, logiquement, vu qu'ils ont accumulé du Bitcoin il y a moins de 6 mois, mais ils peuvent se retrouver très vite en perte comme très vite en gain. Et donc, généralement, ce sont sur ces zones-là où, au final, c'est un peu notre rôle d'être un peu contrariant. Si vous sentez de la peur, mais que les signaux nous montrent ce type de rebond, c'est que c'est plutôt intéressant d'être un peu contre la pensée commune et plutôt d'agir à l'inverse. Et ici, ça nous l'a prouvé encore une fois. Donc, vraiment, c'est à chaque fois le même pattern et ça s'est revu encore ici. Encore une fois, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ce rebond, en tout cas je l'ai partagé sur mon X ici, nous montre qu'on est repassé dans un momentum haussier. Alors évidemment, on est reparti sur un nouvel ATH, etc. Mais c'est extrêmement important de pouvoir mesurer que ce n'est pas juste un coup d'épée dans l'eau, comme par exemple c'était arrivé justement lors de ce fake pump il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'on avait retrouvé les 114 000 dollars. Mais écoutez, vous voyez que ici, la courbe orange était toujours sous cette ligne bleue qui est une sorte de moyenne annuelle pour essayer de mesurer justement quelle est le sentiment, mais surtout la tendance générale d'un marché. Et comme vous le voyez, on recopie pour l'instant. Encore une fois, je ne vais pas m'avancer et m'enflammer sur le fait qu'on va décoller et qu'on va aller to the moon, mais on recopie un peu le même pattern où on repasse au-dessus. Et ce qui va être plutôt intéressant, c'est de voir si le prochain petit retracement nous montrera encore une fois qu'on se sert de cette ligne bleue comme d'un support, comme c'est arrivé ici à plusieurs reprises dans les petits carrés orange que vous voyez, et qu'on redécolle à la hausse là aussi. Mais pour l'instant, on tient bien cette ligne et c'est extrêmement pertinent de le voir. Évidemment, il faut que l'engouement reparte à l'optimisme, puisque sans une sorte de FOMO, on ne va pas non plus aller exploser les compteurs et faire de nouveaux ATH. Donc, c'est extrêmement intéressant de le voir là aussi.
On peut constater d'ailleurs au niveau de la capitalisation que ça fait pas mal de temps qu'on fait le yo-yo autour des 4000 milliards de market cap global, avec un coup 3008, 3009, un coup on fait 4100, 4002 avec un ATH récent. Et on peine à se décrocher vraiment pour l'instant de la zone élargie des 4000 milliards.
Effectivement. Donc, en fait, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a un nouvel ATH avec des capitaux qui quand même sont redéployés dans le marché. Quand on regarde ce qu'il se passe sur ce graphique-là, en bleu, vous le savez, vous avez Ethereum, en orange, les capitaux arrivant sur BTC. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que, hop, je vais couper Ether, mais mine de rien, même si, voilà, on a corrigé depuis la mi-août des 123 000 aux 107, 108 000, je crois, maximum, c'est la correction qu'on a eue au maximum, même si les capitaux entrants ont quand même bien diminué, on tournait sur du 28 milliards de capitaux entrants sur une moyenne à 30 jours, ce qui est énorme. Lorsqu'on était plutôt en 2024 ou en mars-avril sur une énorme, enfin sur, plutôt sur une vraie correction de moins 30%, vous le voyez, on était sur du plus 1, plus 5 milliards par mois, alors que là, on avait quand même une sorte de confiance qui se maintenait et surtout qui nous montre pourquoi on n'est pas allé beaucoup plus bas. On avait toujours des capitaux immenses qui entraient sur le marché, alors que regardez ce qui s'était passé plutôt en février, mars, avril, mais là, il y avait vraiment une perte de confiance. On voyait des capitaux qui n'entraient plus quasiment sur BTC et donc on avait besoin de cette grosse correction. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est vrai que si, on va dire, une grande partie du mois d'août et de la fin juillet, c'était les altcoins et Ethereum qui avaient la main. Mais vous le voyez, depuis le 17 août, les capitaux entrants sur Ether ont quand même énormément diminué. On est passé de plus 75 milliards à plus 7, donc quasiment divisé par 10. Mais ce qui est plutôt bien, c'est que BTC en a profité pour se refaire, reprendre la main. Et encore une fois, on a besoin d'un Bitcoin solide pour que les alts puissent exploser par la suite. Donc, c'est extrêmement pertinent. Ce qui est bien, c'est que même si ça a baissé du côté d'Ethereum, on n'est pas parti en négatif et Ether n'est pas parti à la cave comme ça a pu arriver en mars-avril de cette année, comme ça a pu arriver lors de l'été 2024, ça s'est bien maintenu dans son ensemble et c'est extrêmement intéressant et extrêmement pertinent de le voir, puisqu'encore une fois, on veut voir BTC qui tient, on veut voir BTC qui fait de nouveaux ATH, mais on veut voir aussi Ethereum et les alts continuer d'attirer des capitaux, même dans ces phases de doute, et c'est exactement ce qui s'est passé. En tout cas, on l'a vu à la moindre reprise, les capitaux re-rentrent dans Ether. Contrairement à ce que vous voyez ici, on avait quand même attendu la mi-mai et un BTC qui est passé de 75 à quasiment 105 000 dollars pour revoir des capitaux vraiment re-rentrer massivement sur Ether, alors que là, ça a été assez rapide. Et encore une fois, je trouve ça très très bon pour nous.
Ouais, c'est super intéressant. Puis c'est vrai que quand tu les superposes, on voit à quel point on a eu la rotation du côté de Ethereum et par la suite, ça s'est calmé sur Ether. On a ce gros creux au niveau du bleu et derrière Bitcoin qui reprend le lead. La question que je me pose aujourd'hui par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'on continue justement vis-à-vis des stablecoins à avoir des dépenses qui sont soutenues, puisque s'il y a bien un bull run aussi qui perdure du côté du marché crypto et qui est un peu invisible, c'est celui du pool de stablecoin. Donc la question là aussi qu'on peut se poser, nous, pour essayer de tirer un petit avantage de cette info, c'est est-ce que les stablecoins sont dépensés actuellement?
Mais écoute, très bonne question. Les stablecoins arrivent toujours massivement dans le marché. On est depuis quand même la fin juin sur une moyenne à 8, entre 8 et 15 milliards de stablecoins qui entrent dans le marché, enfin en tout cas qui entrent sur la blockchain depuis la fin juin. Et par contre, et c'est là où c'est extrêmement intéressant, parce que c'est un graphique que je surveillais ici au jour le jour, je regardais ce qu'on appelle le stablecoin ratio channel, qui en fait tout simplement nous montre si les investisseurs, en fonction de la poche de stablecoin qui est disponible, les déploie dans le marché ou à l'inverse, préfère en accumuler encore plus. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'ils accumulent, ils vendent du BTC, des alts, pour justement récupérer du stablecoin. Et ici, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a eu une sorte de double bottom assez intéressant, autant à la début septembre que à la fin septembre, qui, en tout cas, comme vous le voyez, pour l'instant, on repart bien à la hausse. Donc, plus, si vous voulez, ce ratio augmente, on est dans une situation où ils sont déployés. En tout cas, les stablecoins sont déployés dans le marché. C'est exactement ce que l'on veut voir. Regardez le pattern que par exemple, on ne souhaite pas forcément avoir. C'est ce qui s'est passé globalement entre novembre et janvier 2025, où on voit très bien que les stablecoins, depuis septembre, avaient été massivement déployés, ce qui nous a amené à ce nouvel ATH au-dessus des 100 000 dollars. Et pour autant, malgré que le prix se maintienne quand même pendant à peu près 2 mois au-dessus des 100 000 dollars, on voyait très bien que les investisseurs étaient plutôt dans une dynamique de reprendre des stablecoins. Donc, ils prenaient leurs gains, ils sortaient du marché. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, on se casse la figure. Et là, pour l'instant, bah, évidemment, on est dans un début de redéploiement de capitaux de stablecoins sur le marché. Et donc, c'est pour ça que ce type de graphique, je vais le regarder tous les jours parce que j'ai vraiment envie de voir quand est-ce que bah, cette force d'achat, ce pouvoir d'achat, va commencer à s'épuiser, puisque c'est à partir de ce moment-là que le marché recommencera à se retourner et repartir, si tu veux, en une sorte de mini-cycle baissier, en tout cas, comme ça nous est arrivé tout au long de 2024, vous le voyez, après avoir déployé beaucoup de stablecoins en mars, on a vu qu'ils les ont repris pour évidemment faire des gains, idem ici en novembre, idem ici en juin et juillet, et donc là, on repart pour l'instant à la hausse, donc c'est très positif pour nous, et on va surveiller ça, évidemment.
Et si vous voulez corroborer également du côté de la DeFi par rapport au stablecoin, vous pouvez surveiller les taux d'emprunt et de prêt par rapport à tout ça. Et à partir du moment où on arrive sur de l'USDC, USDT à des 10-15%, là, vous savez que ça devient surchauffe ultime. Et de même, quand on passe dans des cycles baissiers autour de 3%, voilà, voire parfois même un peu en dessous de 5-3, c'est qu'on est sur des phases d'aplat qui sont assez propices en général à commencer à payer le marché. Donc, historiquement, notamment du côté de AAV, c'est vrai qu'à partir de 8-10 à jusqu'à 15% et plus, le jour où vous verrez ce genre de taux hein, du côté de la DeFi, c'est qu'on est en extrême surchauffe très certainement.
C'est ça, effectivement. Maintenant, ce qui m'intéresse évidemment lorsque on voit qu'il y a un déploiement de stablecoin, c'est aussi de voir s'il y a eu ce réel FOMO ou pas. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu ou en tout cas si tu l'as vu CM sur les réseaux, mais c'est vrai qu'on parle d'un ATH, un des plus silencieux encore une fois, qui vient de se réaliser parce qu'il n'y a pas forcément d'engouement massif, il n'y a pas de retail qui tout d'un coup arrive de nulle part massivement. Et même encore, j'ai envie de te dire, même les institutionnels qui ont pas forcément, enfin, ils ont bien acheté au niveau des ETF la semaine dernière, mais même les trésoreries, enfin les entreprises qui ajoutent du BTC dans leur trésorerie n'ont pas encore non plus appuyé massivement sur le bouton acheter. Et ça, on le voit puisque tous les récents investisseurs, ceux qui sont arrivés il y a moins d'un mois, vous le voyez ici en fait, cette courbe plutôt rouge correspond à la part, si vous voulez, de BTC détenus comparé à la supply totale. Et on n'est qu'à peu près qu'à 8%. Généralement, quand on est dans un gros engouement de marché, vous voyez en fait que bah, y a beaucoup de gens qui arrivent, de nouveaux investisseurs qui arrivent, et donc ils détiennent de plus en plus de BTC sur du très court terme. On passe généralement de 8 à 15%, c'est fut également le cas en février-mars, 8 à 14%, alors qu'ici nous sommes à 8% tout plat. Donc, c'est comme si on n'était encore qu'entre nous, que ce sont toujours les mêmes qui redéploient leurs capitaux. Alors, on avait pris nos gains sur ces zones-là, etc. Et là, on redéploie nos capitaux. Donc, plutôt intéressant. On est un peu dans cette même configuration où on recommence à aller titiller notre précédente ATH, comme ça arrivait en 2024, lorsqu'on revenait vers les 65, 70 000 dollars. Mais que pour autant, il n'y a pas de nouveaux investisseurs massivement qui sont arrivés. Ça, c'est extrêmement intéressant de le voir. Et c'est même, j'ai même envie de te dire, c'est même très intriguant de voir qu'on est vraiment qu'entre nous alors que BTC vient de faire un nouvel ATH.
C'est même extrêmement surprenant puisque aujourd'hui, ben, on a cette sensation en effet que les capitaux ont une rotation un peu interne. Et ça fait pas mal de temps que ça dure. Je pourrais même dire que ça doit bien faire un an depuis, pas tout à fait un an, en décembre 2024, quand on a eu le franchissement de Bitcoin, des fameux 100 000. Et ensuite, on a eu un peu cette explosion du côté des alts, des dinocoins, etc. On a vraiment eu quand même un semblant d'alt-season, on va dire, même si ça n'a pas duré. Et aujourd'hui, bah, depuis cette date, donc désormais 9-10 mois, on a la sensation que ouais, ça tourne un peu en vase clos. Quand on voit, par exemple, que ça commence à partir de Hyperliquid pour aller sur Aster, pareil, on a la sensation que c'est de la rotation plutôt que du déploiement de nouveaux capitaux. Donc, ça laisse quand même se poser des questions pour cette fin d'année aussi, en étant pragmatique quelque part. D'où est-ce que pourrait venir cet afflux de liquidités qui permettrait de propulser une véritable altizone ?
Très bonne question. C'est vrai qu'on a vu les ETF quand même, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui là, depuis le début de semaine sont sur du plus 3 milliards, donc ce qui est extrêmement positif. On a besoin, encore une fois, ils ne font pas tout, hein, les ETF ne sont pas les seuls à venir apporter des liquidités sur le marché. Mais comme vous le voyez, quand on a de nouveaux ATH, on a quand même plusieurs semaines soutenues d'arrivée de capitaux. Pour regarder ce qui s'est passé entre avril et juillet, donc le nouvel ATH que nous avions fait aux 122 000 $, 123 000 $, encore ce qui s'était passé entre octobre et justement décembre 2024, où ici pareil, un afflux quand même massif. Là pour l'instant, on n'est qu'à une grosse belle bougie, on va dire. Donc on a aussi le temps, entre guillemets, vous le voyez, ça prend du temps, ça prend plusieurs semaines avant vraiment de se déclarer. C'est pas parce que tout d'un coup on a un afflux que voilà. Faut paniquer dès maintenant. En tout cas, on le voit aussi sur le comportement des investisseurs pour les prises de profit. C'est-à-dire que là, quand on regarde ce graphique qui s'appelle le SOPR, qui nous montre justement si les investisseurs sont plus enclins à prendre beaucoup de gains, enfin des gains ou des pertes. Ici en vert, c'est plutôt des gains. Ici en rouge, c'est plutôt des pertes. Comme vous le voyez, lors des corrections et lorsqu'on dépassait ce que j'ai le premier graphique que je vous ai montré avec ce coût moyen d'acquisition des investisseurs à court terme, ici cette barre rouge, chaque fois qu'on passe en dessous, vous voyez, il y a des gens qui paniquent, comme d'habitude. Toujours des investisseurs qui paniquent, qui vendent à perdre. Et là, depuis, on est repassé à la hausse. Bah forcément, on est quasiment à 99% des investisseurs en profit. Il y en a forcément qui vont prendre des gains. Par contre, on est encore une fois très très loin des excès de surchauffe sur ce cycle. Par exemple, on est sur un ratio de 1,04. Il faut savoir que voilà, lors de l'explosion à la hausse en novembre, on était sur du 1,11, 1,7, 1,8. Pareil, en mars 2024, on était sur du 1,15, etc. Même lors de juillet, on était plutôt sur du 1,06. Donc là, en fait, on est quasiment dans un état de... Il y a une reprise à la hausse et ça se fait très bien. Regardez ce ratio, il arrive à peu près sur les mêmes niveaux que tout ce qui s'est passé entre avril et à peu près début juin. Donc pareil, 1,04, 1,05. Des prises de gains, mais qui, somme toute, sont encore très mesurées. On n'est pas dans quelque chose qui peut créer un vrai déséquilibre entre l'offre et la demande. Et ça, forcément, on va le voir aussi du côté de nos fameux détenteurs à long terme. Alors, ce graphique qui, cette fois, a d'autres couleurs, parce que comme ça, je vous en montre pas mal. Hop. Ce graphique-là, en fait, nous montre quand, justement, les vieux investisseurs, les hodlers, la smart money, vendent massivement du BTC. Alors, généralement... ils le font lorsqu'on arrive sur des niveaux de prix qui les intéressent pas mal. Bon, comme vous le voyez, plus le ratio, enfin plus ces courbes, ces petites montagnes sont de couleur un peu orange vif rose, c'est qu'il y a beaucoup de vieux coins qui sont vendus. Et vous le savez, moi j'aime beaucoup me baser sur des cibles comportementales, c'est-à-dire que j'ai pas forcément une idée du prix vers lequel je vais prendre mes gains, mais j'ai plutôt une idée de ok, quand est-ce que les investisseurs historiques sur BTC qui on va dire, est un peu de la smart money, quand est-ce qu'ils vont prendre beaucoup de gains ? Quand est-ce qu'ils vont vendre beaucoup de BTC ? Eh bien, regardez, ça arrive à chaque fois durant ces phases où on arrive sur un nouvel ATH, un nouvel engouement, comme ici autour des 105 000 $, 110 000 $, comme ici autour des 73 000, comme ici autour des 123 000 $. Et là, pour l'instant, regardez, on est sur un niveau assez plat. Là encore, vu qu'on est sur un ATH tout frais, donc on est à un ATH, je crois, on l'a dépassé de 3 000 $. Vu qu'ils ont déjà pris massivement des profits autour des 120 000, ce n'est pas pour un plus 3, plus 5 000 dollars qu'ils vont forcément remettre la main au portefeuille et vendre massivement. Donc évidemment que de leur côté, on a une sorte de pédale de frein qui se relâche petit à petit, puisque forcément on n'a pas leur pression vendeuse sur le marché. Ils vendent évidemment au quotidien, il y a toujours des ventes, mais elles ne sont pas massives au point de nous empêcher d'aller plus haut. Donc si la demande continue à suivre, si les ETF, si les achats en spot continuent d'affluer, évidemment qu'on a tout, en tout cas, pour aller chercher de nouveaux ATH et aller peut-être au-dessus des 130 000 $, 140 000 $, mais j'en parlerai dans, justement, je crois, le graphique suivant.
D'ailleurs, à cette occasion, au niveau information, on a eu la semaine dernière entre 3 et 4 milliards qui ont été déployés sur les ETF en inflow Bitcoin. Mmh. Et la journée d'hier, on était à 1,2, 1,3 juste sur la journée d'hier. Donc, ça rentre très, très fort. Et d'ailleurs, on voit de nouveau cette disparité avec Ether qui était à peine à 100, 130 millions, peut-être 150. Voilà, on a un ratio quasiment 2 fois 10. Donc là aussi, ça sera bon de surveiller à partir du moment où Bitcoin commencera à revenir plutôt lui-même à 100, 200, 300 millions et que Ether va faire le vase communicant. Ça sera peut-être intéressant pour jouer de nouveau Ether et le franchissement, on l'espère tous, de son ATH proche des 5 000 $.
C'est vrai, c'est vrai. En fait, ce qui est plutôt intéressant de voir, et ça, c'est le graphique que je voulais vous présenter juste après, c'est un graphique qui vient justement de Blockunity qui nous montre une sorte de saisonnalité du marché. Et en fait, ce que vous le voyez en vert ici, c'est globalement la capitalisation des altcoins, donc qui augmente, c'est très très bien. Et notre indice de saisonnalité ici en violet, qui lui nous montre justement quand est-ce qu'on est plutôt dans une saisonnalité propice aux alts ou pas. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que malgré un nouvel ATH de BTC, on est sur une zone très très basse, donc on est sur la saison du Bitcoin, comme vous le voyez, et donc c'est justement, vous le savez, le but c'est pas de se ruer sur BTC quand c'est la saison du Bitcoin, puisque c'était peut-être en amont qu'il fallait investir, mais par contre, quand c'est justement la saison de Bitcoin, c'est, comme tu l'as dit, peut-être tout l'intérêt maintenant de se positionner sur les altcoins, puisque pour l'instant, elles sont un peu en dilettante par rapport à BTC, et donc ça peut être extrêmement intéressant. Et on le voit ici, on n'est pas du tout dans un excès. Ce que l'on va attendre à l'inverse, c'est quand on sera, hop ici, vous voyez ces longues barres rouges qui ont flashé autant en décembre qu'en mars 2024 et aussi ici en juillet 2025. C'est à l'inverse ici qu'il faudra se poser des questions pour prendre des profits sur les altcoins puisqu'on sera dans un état de surchauffe. Mais pour l'instant, c'est tout l'inverse et c'est peut-être dans ces moments-là qu'il faut profiter, se poser, faire son plan et se dire « Ok, si BTC continue comme ça, au bout d'un moment, on aura cette rotation de capitaux. » On l'a vu sur le graphique, alors que je ne dise pas de bêtises, ici où Ether commence à reprendre petit à petit des capitaux entrants, c'est peut-être le bon moment à chaque fois pour se positionner dessus quand les yeux sont plutôt rivés sur Bitcoin.
Maintenant qu'on a fait la rétrospective à la fois de ce qu'on a vécu, du présent et de ce qui pourrait venir, bien justement, on va s'intéresser à la projection au futur. Et que nous dit l'analyse on-chain quand il s'agit de se projeter et potentiellement sur certaines zones de prix. Comme d'habitude, on n'a toujours pas de boule de cristal, que ce soit en termes de timing ou en termes de prix. Mais c'est vrai que déjà, le timing nous presse pas mal si on s'en fie au cycle précédent. On est dans les clous potentiels hein, sur le mois roulant là, de la fin de deux cycles, et voire même on l'a déjà dépassé par rapport aux deux cycles précédents, le timing. Donc, que nous dit l'analyse on-chain par rapport à tout ça?
Par rapport à tout ça, donc on va se baser autant sur BTC, enfin on va traiter autant Bitcoin que Ethereum. Globalement, donc si cette dynamique continue à aller dans notre sens, vous le savez, on a des cibles de prix en fonction du comportement des investisseurs, dans le sens où on va se baser à, historiquement parlant, à partir de quel pourcentage de gains latents, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas réalisé, les investisseurs vont commencer à vraiment prendre leurs gains et les sortir du marché et donc créer ce fameux déséquilibre, cette distorsion qui arrive, qui pourrait ensuite épuiser la demande et donc nous faire partir dans un cycle, enfin cette fois dans une phase un peu plus baissière. Ce qui est plutôt pas mal, c'est de voir que là on a une sorte de nuage de prix. On peut appeler ça les bandes de prix sur BTC. Et comme vous le voyez, en fait, sur ce cycle, pour l'instant, ça se respecte plutôt bien. On est dans ce nuage vert qui, depuis la fin février, on n'arrive pas à le passer. Regardez ici, on l'avait tapé une fois ici, on a rebondi, on est parti à la baisse. On l'avait tapé une fois ici en mai, on était reparti à la baisse. Une fois en juillet, une fois en août. Et donc là, on s'y dirige petit à petit. Et le haut de la bande est estimé à 130 000 $ environ. Ce sont des bandes dynamiques, donc au fur et à mesure des jours, ça va s'adapter en fonction de ce qui se passe sur le marché, est-ce qu'il y a des gens qui prennent des profits ou pas. Et globalement, c'est déjà un des premiers paliers que je souhaite que l'on dépasse, puisque, encore une fois, ça fait maintenant plus de 8 mois que l'on n'arrive pas à la dépasser. Si on y arrive, si on arrive à repasser au-dessus comme c'est arrivé, regardez, ici en 2024, on l'avait touché, on a corrigé, touché, corrigé, touché, corrigé, repassé au-dessus, rebond, et là, on avait explosé à la hausse. Si on arrive à refaire ce même pattern, potentiellement, si on s'arrête au moins dans ce nuage bleu, une cible entre les 145 000 $-150 000 $ ne serait vraiment pas déconnante. On arriverait dans un état de surchauffe, puisque à ce moment-là, beaucoup d'investisseurs seraient beaucoup trop en profit. Et encore une fois, ça nous amènerait à avoir un retournement de situation. Donc globalement, voilà, Je dis pas que BTC ne peut pas aller à 180, 200, peut-être 300, etc. Mais on a, voilà, on va y aller étape par étape et voir ce qui se passe sur le marché, voir si on aura de la force pour aller plus haut à ce moment-là. Déjà, si on arrive à passer les 130 000, dites-vous qu'il y a quand même un boulevard qui nous attendrait pour ensuite monter peut-être aux 140, 150 000 dollars. Ça se peut très fortement, même si, encore une fois, on va rester prudent. BTC, le marché ne nous doit rien. C'est pas parce que là, on est sur un nouvel ATH qu'on va forcément décoller to the moon. On surveille autant ce qui se passe au niveau des cibles à la baisse qu'à la hausse. Mais en tout cas, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Et ce seraient les cibles que moi, je surveillerais principalement pour prendre mes profits sur BTC.
Super intéressant. Et c'est parfaitement aligné avec l'analyse technique qui nous envoyait quelque part. J'ai plus le Fibo en tête, mais voilà, on était entre 148 et 155 enfin, dans ces eaux-là. Et c'est vrai que depuis toujours, c'est presque une prophétie autoréalisatrice. Il y a beaucoup de gens qui avaient cette target un peu qui est une médiane à partir du moment où on a franchi les 100 000, de se dire pourquoi pas d'ici la fin du cycle qu'on aille autour de 150 000. Et ça peut devenir autoréalisateur dans le sens où à partir du moment où on sera entre 145 et 150, tout le monde va se mettre à prendre des profits et même ceux qui n'en ont pas du tout pris jusqu'ici, parce qu'on a fait un sondage du côté de Twitter hier et il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui ont 0% stablecoin, 0% en cash. Donc, j'espère que tout le monde sait ce qu'il fait. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que 150 000, je pense que ça mettrait quand même pas mal de monde d'accord par rapport à ce cycle. Ça ferait quand même un fois 10 par rapport au point bas des 15 000 qu'on avait eu lors du bear market. C'est assez fou.
Ce qui serait énorme. Hein. Puis en plus, 150 000, ça corrobore un peu ce qui s'est passé au niveau des prix psychologiques. Déjà depuis, historiquement parlant, hein, c'est vrai qu'on s'était arrêté quasiment sur les 20 000 en 2017. On avait touché les 50 000 en 2021 et ensuite, on a forcément explosé encore plus à la hausse. On était sur les 50. Ensuite, le FOMO nous a poussé sur les 60 000 et plus. Et là, c'est vrai que les 100 000, déjà, la barre historique des 100 000, on a mis du temps à la franchir et ensuite, voilà, ça nous a quand même fait bien plaisir. 150 000, ce serait un beau palier historique, comme tu le dis. Et voilà, c'est vrai que voilà, juste pour remettre dans son contexte, vu que tu dis qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pris leur gain, globalement, sachez que oui, tant qu'on ne repasse pas potentiellement sous les 107, 100, 108 000 dollars, tout va bien, même si on peut avoir une correction. Hein, on n'est pas à l'abri de ne pas en avoir. Regardez ce qui s'était passé en octobre de l'année dernière. On avait bien explosé aussi. On avait recorrigé à plusieurs reprises par la suite avant d'exploser à la hausse. Donc ça se peut, faut pas avoir peur, mais on a quand même certains niveaux qui invalideraient évidemment le scénario aussi. Pour Ethereum, puisque forcément ça vous intéresse aussi, même si pour l'instant BTC a quand même la main, Ether, il nous a fait quelque chose d'assez, ce qu'on peut dire, textbook, dans le sens où ça fait quand même plusieurs fois que j'en parle. On a un nuage de prix, comme vous le voyez ici, qui est représenté différemment, que c'est sur une autre plateforme, mais qui globalement nous montre bien que Ethereum, à chaque fois, il a intérêt de tenir cette bande jaune ici, qui était à peu près autour des 3008 globalement. Et ce qui s'est passé lors de la correction de fin septembre, on est tombé pile poil sur ce niveau-là. C'était un niveau de rechargement. Alors, moi, j'étais à la maternité, donc je n'ai pas pu en profiter, mais globalement, qui était parfait pour recharger. Et aujourd'hui, je crois qu'il est à 4005, 4006, voire qu'il a touché les 4007 hier. C'était un point de rechargement optimal. Et encore une fois, regardez ce qui s'était passé ici début août, avant qu'on aille justement toucher les 4008. On avait rebondi pareil ici sur cette bande jaune, sur les 3003, et on avait explosé. Donc là, Ether, il est dans une très bonne dynamique, puisque comparé aux deux tops précédents de ce cycle, à chaque fois qu'on rebondissait et qu'on n'arrivait pas à rebondir sur ce niveau-là, on partait à la cave. Ici, pareil, on l'avait cassé, on repartait à la cave. Alors que là, on le tient et c'est très fort. Maintenant, ce que l'on va surveiller, c'est s'il arrive à passer pour de bon, cette fois, cette bande orange qui, comme vous le voyez, nous fait défaut quand même depuis globalement mai 2024. On n'arrive pas trop à passer au-dessus ou dès qu'on passe, vous voyez, on repart vite à la baisse. À peu près autour des 4 900, 5 000 dollars. Et ensuite, si vraiment on veut se promettre à rêver, donc vous voyez, ce sont des bandes dynamiques, encore une fois, ce ne sont pas des cibles fixes. Atteindre les 5 009, les 6 000 dollars serait déjà quand même pas mal, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des targets un peu plus hautes. Encore une fois, chaque chose en son temps. Si jamais on casse les 4 009 ici et qu'on arrive à zoner et à maintenir cette fois cette bande orange, de vraiment nous en servir comme d'un support, comme c'est arrivé pour cette bande jaune, peut-être qu'on pourra arriver d'aller plus haut. Mais encore une fois, chaque chose en son temps. Ce cycle fait vraiment les choses bien et à la fois, voilà, ça prend du temps pour certains, mais il fait quand même les choses bien quand il a envie d'aller à la hausse. C'est pas comme 2021, c'est pas un fourre-tout. Donc, on fait les choses petit à petit, étape par étape, mais pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que ça sent bon. Et écoute, j'espère que la prophétie du top du 6 octobre ne se réalisera pas et qu'on puisse aller un peu plus loin.
Ouais, c'est clair. Et par rapport à Ether, en effet, à partir de 6000, pareil que ce qu'on disait tout à l'heure pour Bitcoin, ça devient intéressant pour ceux qui ont des bagues moyen-long terme de peut-être se payer un petit peu. Et on avait des extensions de Fibo qui nous amenaient par la suite de souvenir entre 7500, 7700 et une suivante à 11K et des brouettes. Mmh. Donc, les 10 000 sur ce cycle, bon, il faudrait vraiment qu'on ait un engouement d'un seul coup complètement fou, tout le monde qui perd la boule et qui se dirige quasi uniquement pendant des semaines sur Ether, chose qui peut arriver, hein, on l'a déjà vu par le passé. Les moments euphoriques sont complètement irrationnels, donc on ne dira pas que ça ne peut pas arriver. Mais aujourd'hui, la rationalité nous démontre que une fois qu'on se sera affranchi des 5 000, on vise 6 000, on vise peut-être 7 000, et ça sera déjà plutôt pas mal au vu de comment s'est déroulé le cycle.
C'est clair. Non, c'est vrai que en tout cas, tous les deux, on fait bien de le préciser. Encore une fois, ce cycle nous teste énormément. On n'est pas dans l'euphorie de 2021 ou 2017, pour l'instant en tout cas. Donc, on fait les choses étape par étape et on prend des profits, puisqu'encore une fois, rien que le fait d'en prendre, même si c'est juste rembourser sa mise, même si c'est juste prendre 100 dollars, 1000 dollars, peu importe, vous ferez partie du coup de ceux qui font quand même de l'argent. Et il y en a beaucoup qui enfin, faut quand même réaliser qu'il y en a beaucoup qui en perdent beaucoup plus qu'ils n'en font. Donc, mon exemple personnel en 2021, malgré un cycle de folie, je n'ai pas fait d'argent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends mes gains petit à petit par palier. Voilà, donc ça sert de leçon au bout d'un moment, j'ai envie de te dire. Donc voilà.
Tout à fait d'accord avec toi, il faut passer par là pour le comprendre. Et encore que peut-être que la classe 2025 aura moins de déboires lors d'un futur bear market que ce qu'on l'a connu nous, notamment parce que petit à petit, les gens sont plus éduqués et se rendent compte que Bitcoin est malgré tout, quand on replace l'église au centre du village, ce qui tient justement le village et ce qui tient le portefeuille au long terme. Donc, je pense que le prochain bear market, pour ceux qui ont que des altcoins, ça sera toujours tout aussi dramatique que les bear markets précédents. Mais pour ceux qui ont réussi à petit à petit construire un portefeuille un peu plus robuste et un peu plus réfléchi, ça devrait quand même mieux se passer. En tout cas, je l'espère. Et c'est modulo le fait qu'on aura peut-être un drama plus tard du côté des treasury compagnies, etc. Mais je pense que c'est encore peut-être un peu trop tôt pour que ça se casse complètement la gueule. Et je sais pas, je me dis qu'on a peut-être quelques années de plus devant nous. Et ce qui, dans tous les cas, fera la différence au niveau des treasury compagnies, c'est celles qui sont arrivées le plus tardivement et qui ont les reins les moins solides comparativement à du MicroStrategy qui, normalement, devrait pouvoir tanker un bear market très largement jusqu'aux prochaines itérations de leur propre, je sais pas comment ils disent, leur dette roulante, etc. Aujourd'hui, MicroStrategy, dans tous les cas, c'est une énorme usine à gaz avec des levées de fonds consécutives qui ont été faites, notamment sur des actions à tarif préférentiel, sur lesquelles il y a de la dette qui va être remboursée pour chaque couche au final. Il est presque, j'ai l'impression de parler des subprimes, tu sais, des CDS de l'époque. Ouais. Il y a des tranches, il y a des couches, et en fonction de chaque couche et de chaque risque que tu as pris, on va te rembourser plus vite ou moins vite, ou tu seras le dernier de la file, etc. Donc franchement, je ne vois toujours pas ça d'un bon œil, hein, tout ce qui a été mis en place par MicroStrategy ou les autres, mais je pense que MicroStrategy aura plus de chances de s'en tirer, en effet, en phase baissière, que ceux qui sont arrivés un peu la fleur au fusil dernièrement et qui seront les dindons de la farce, finalement.
C'est clair. Puis en plus, je ne sais pas si tu as vu, mais il y en a déjà beaucoup qui, malgré un BTC qui fait un ATH, il y en a déjà beaucoup qui, pour certains de leurs cours en bourse, ont déjà vécu des moins 50, moins 70%.
Ouais.
Donc, ce qui est plutôt bien, c'est que ça nous crée, pour l'instant, ça ne nous fait pas une sorte d'effet boule de neige où tout le monde s'inquiète, tout le monde panique, etc. Mais c'est vrai que quand tu vois MicroStrategy, ils ont quand même un coût moyen d'acquisition autour des 74 000 dollars. On a de la marge avant de tomber dessus. Il faut se rappeler qu'en 2022, ils avaient ils ont réussi à tanker un moins 50% sur leur coût moyen d'acquisition, puisqu'ils avaient à peu près acheté du BTC sur 30K en moyenne, on était tombé à 15. Donc ils ont réussi à tanker ça. Si jamais ça devait arriver aujourd'hui et qu'il a quand même bien rodé son système, comme tu dis, c'est encore un sujet que j'ai pas forcément travaillé à fond, mais si jamais on devait subir un moins 50% depuis les 74 000, bah, faudrait quand même voir BTC tomber sur les 37 000, ce que j'y crois quand même très peu. Donc je pense que MicroStrategy, même s'il peut subir quand même beaucoup, je pense que l'entreprise ira bien, même si je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent encore pour vraiment comprendre toutes les ficelles de ce qu'il a construit en tout cas.
Oui, c'est assez complexe et j'allais dire opaque, mais pas vraiment, puisqu'il y a des gens qui l'ont très bien décortiqué. Mais c'est vrai que d'un point de vue des dominos, ça laisse quand même se poser pas mal de questions plus tard. Je pense pas qu'on y est encore, mais peut-être que plus tard, justement, une fois que ça sera devenu trop grand, ben, le jour où le grand domino tombera en 2030, 2035 ou que sais-je, ça fera très très mal au marché. Mais bon, d'ici là, ça lui laisse le temps de continuer de grossir et de capitaliser suffisamment pour justement ne pas se faire déglinguer le jour où il y aura une quelconque problématique. Et c'est aussi un peu finalement un des gros sujets et enjeux du futur, de jusqu'où viendra capitaliser hein, le marché crypto, le Bitcoin. Il y en a qui disent bon 300 000, 400 000, 500 000. Il y a les aficionados qui, basés sur les théories des gourous des réseaux, vantent les mérites de Bitcoin 1 million d'ici à 2030. Je pense qu'il y a assez peu de chances que ça se produise. Mais voilà, il y a à boire et à manger au niveau des prédictions. Et je pense que dans un sens positif ou dans l'autre négatif, on pourra avoir pas mal de surprises dans tous les cas.
Oui, c'est clair, c'est clair. Et juste pour l'anecdote, en fait, quand tu vois que MicroStrategy devient quand même trop en profit, ici avec un quasiment x2,15, c'est arrivé par deux fois quand tu regardes en mars et en novembre 2024, comme par hasard proche d'étoffe, ça nous amènerait aujourd'hui à un BTC à 155 000 pour arriver à peu près au même niveau.
Donc, eh bien, voilà. Cohérent,
sûr, tu vois à peu près quand est-ce que les gens se disent, tiens, il y a peut-être des profits à prendre. Donc, ça va être intéressant de surveiller.
Ouais, très intéressant. Puis c'est là où on voit la confluence vraiment multi indice, multi-indicateur qui vraiment pointe vers cette zone élargie des 150 000. Donc très très intéressant. Et je suis super curieux de voir si jamais on va jusque-là sur ce cycle et cette fin d'année maximum, allez, début 2026, si on avait un peu un cycle qui s'étale quelque part. Ouais. À la 2018, tu sais, avec l'alt-season qui s'était étalée jusqu'à janvier 2018. Mais voilà, ça va être très, très intéressant de voir le comportement des gens sur cette zone. Et je pense que c'est là qu'on fera nos meilleures émissions, potentiellement.
Il y a moyen. Il y a moyen, effectivement.
Donc, on arrive au terme de cette émission qui nous aura permis de vous offrir un peu de profondeur quant à l'analyse on-chain et surtout des objectifs réalistes. Et vous voyez, peu importe là où l'on regarde, à la fin, on arrive toujours plus ou moins au même objectif théorique. Donc, merci Adrien. Vous pouvez le retrouver, Crypto Sapiens on-chain, du côté de YouTube. Abonnez-vous à sa chaîne, du côté de X et sur tous les réseaux sur lesquels tu te trouves actuellement. Merci à tous encore d'être là. Un énorme plaisir également de voir vos commentaires et vos retours qui sont extraordinaires quant à ces nouveaux formats. C'est toujours une prise de risque de notre côté de lancer des nouveaux trucs et on voit que ça vous plaît, que vous répondez présent et que les nouveaux intervenants vous font plaisir. Donc, c'est super plaisant de notre côté de continuer à pouvoir vous distiller comme ça des informations qui, on l'espère, vous permettront de prendre les bonnes décisions sur cette fin d'année, mais surtout pour le long terme par la suite pour vos portefeuilles crypto et pas que. Merci à tous, merci Adrien, et on se retrouve d'ici une quinzaine de jours. Ciao, ciao.
Ouais, merci à tous, à très bientôt.